France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien de la matinale d'Inter le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Appelez-nous, posez vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application mobile de France Inter. Gilles Legendre, bonjour.
Bonjour Nicolas Demorand.
Pour son acte 10, la mobilisation des Gilets jaunes était comparable à celle de la semaine dernière, plus de 80 000 personnes. Le lancement du grand débat national n'a donc pas pour l'instant des faits sur les samedis de manifestation. Les différents reportages qu'on a pu entendre ou lire notent en tout cas la volonté des Gilets jaunes de poursuivre ces manifestations du week-end. L'exécutif pariait sur les débats pour sortir la contestation de la rue. Croyez-vous que ce pari peut aboutir, Gilles Legendre, ou vous êtes-vous déjà fait à l'idée qu'il y aura des actes 11, 12, 13, 14 et plus si affinité?
Alors, je suis sûr que le débat national aura une vertu d'apaisement et permettra d'orienter notre politique à son issue. En revanche, évidemment, sur la manifestation des Gilets jaunes, la situation est totalement imprévisible. Mais ce qui est important et qui s'est manifesté samedi, c'est qu'en effet, la manifestation reste au même niveau qu'avant. Elle est modeste. Avouons-le, elle est modeste. 85 000 personnes sur toute la France, c'est peu. Et surtout, le fait important, c'est que la violence recule. Et ça, c'est le point fondamental. Nous n'empêcherons jamais les Gilets jaunes de se réunir, de se parler, de manifester s'ils le souhaitent. C'est un droit inaliénable. En revanche, la violence, elle est inacceptable. Or, c'est une bonne nouvelle, elle est en train de reculer.
Donc vous direz que le mouvement des Gilets jaunes entre dans la maturité, devient plus pacifiste, vous saluez cela?
C'est lui faire beaucoup d'honneur. De toute façon, vous savez, depuis le début,
pourquoi
il y a une grande ambiguïté. Mais parce que il y a une grande ambiguïté dans ce mouvement. On le sait depuis le début. Il y a des gens qui expriment un mécontentement, une colère sincère, et puis il y a ceux qui l'instrumentalisent à des fins politiques et qui drainent dans leurs débats internes des idées dont la France n'a pas forcément de raison d'être très fière. Et puis il y a une troisième partie, c'est ceux qui font de la violence, qui ont envie de casser et qui portent soi-disant le gilet jaune, mais qui salissent le mouvement et qui salissent la sincérité de ceux qui authentiquement ont des choses à dire.
Sur le fond, ces débats entre le président et les maires ne sont-ils pas, comme le disent certains, trop formatés et sécurisés? Ne faut-il pas que le président parle aussi aux infirmières, aux enseignants, aux gilets jaunes?
Alors, à travers les élus, le président parle à tout le monde. De même que le grand débat national, ça n'est pas un grand débat avec les gilets jaunes. C'est un grand débat avec les Français. Je dirais même, c'est un grand débat entre les Français, qui doivent discuter de leur futur, de leur avenir, de leurs problèmes, de façon à ce que derrière, nous soyons en mesure d'y apporter des solutions. Nous avons considéré depuis le début du grand débat que les maires, les mairies, les communes étaient le lieu naturel du siège de ces débats. Donc pour amorcer ce grand débat, il est normal que nous commencions par la mobilisation des maires.
Mais c'est ce qu'a fait le président à deux reprises. Est-ce à dire que demain, après-demain, plus tard, il parlera aussi, il élargira ce...
Sans aucun doute.
Donc il parlera des Gilets jaunes également?
Il parlera, évidemment, il n'y a aucun tabou à ce qu'il puisse parler à l'ensemble. Mais vous savez, le président, là, il part en pionnier. Si je pouvais parler vulgairement, il amorce la pompe. Et ça marche. On a lancé le grand débat lundi dernier. Et ça y est, ça part partout,
alors,
dans toutes les communes, dans toutes les mairies.
531 débats prévus à 6h10 ce matin, quand j'ai regardé sur granddebat.fr. Il y en a un seul à Paris pour le moment. Vous croyez vraiment que c'est un grand début du grand débat et le début, l'amorce, la pompe?
Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Quand vous libérez la parole dans quelque communauté humaine que ce soit, dans une entreprise, sûrement dans une rédaction, mais aussi dans le pays, vous enclenchez un mouvement irrépressible. Mmh. Et c'est ça qui va fonctionner.
Mais là, est-ce que vous êtes un peu déçu du 500 débats au bout
pas
d'une
du
semaine?
Tout, parce pas
que
du tout.
On mais aurait non, pu mais imaginer qu'il y en ait des milliers, en fait,
alors,
que la libération de la parole soit... Et un seul à Paris?
Non, d'abord, il y en a un seul déclaré. Mais moi, j'en ai eu un hier, spontané, avec une cinquantaine de personnes, dans un café de ma circonscription. Il n'avait pas été déclaré. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous ne trouvez que très peu de Français qui ne soient pas au courant, et très peu de Français qui ne se disent pas intéressés. Et puis maintenant, depuis
cette très peu de Français croient que le grand débat répondra à leurs préoccupations.
C'est un autre sujet, ça.
Oui, enfin, c'est la question du débouché et de l'utilité. C'est pas un autre sujet.
Nous sortons d'un moment de grande colère sociale, de grande colère collective. Vous ne pouvez pas retourner l'opinion du jour au lendemain. Par ailleurs, et ça, j'invite les auditeurs de France Inter à y aller. Cet après-midi, la plateforme est ouverte et vous n'avez pas besoin de réunion pour faire valoir vos idées, vos propositions. Vous pouvez le faire de façon hyper simple sur la plateforme granddebat.fr. Donc aujourd'hui, tout le pays se met progressivement en mouvement. Je pense au monde associatif notamment. Je suis sollicité par des dizaines de mails quotidiens d'associations qui me disent « Comment fait-on ? Comment peut-on faire ? Où est la plateforme ?»
Pourquoi vous l'avez pas fait plus tôt, Gilles Legendre, excusez-moi, parler aux maires et aux associations ? Pourquoi découvrir ça cette année, il y a 3 jours
quand nous sommes arrivés,
ou 8 jours ?
Quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avions un sentiment d'urgence légitime qui n'a d'ailleurs pas disparu et qui voulait...
Urgence ou arrogance ?
Non, pas arrogance, urgence, pour engager les grandes transformations du pays qui avaient trop tardé, et parce qu'elles ont trop tardé...
En quoi ça empêche de parler à des maires ? En quoi ça empêche de parler avec des maires ?
Et parce qu'elles ont trop tardé, elles ont engendré la colère qui a explosé au mois de novembre et au mois de décembre. Donc nous avions raison d'engager ces réformes. En revanche,
en quoi ça empêche de parler avec les corps intermédiaires et les maires dont vous avez décrit tout à l'heure le travail remarquable ?
Nicolas Demorand, je suis désolé de vous contredire, mais nous n'avons jamais cessé de parler aux maires. Il y a eu des conventions territoriales, 2 grandes conférences territoriales organisées par l'exécutif, président de la République et Premier ministre. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas parlé. De même qu'on n'a pas non plus boudé ou ignoré les corps intermédiaires.
Ce sont les maires eux-mêmes qui le disent et qui se réjouissent de pouvoir parler directement aujourd'hui avec le président de la République.
Ça prouve que le volume des échanges était insuffisant, c'est pour ça qu'on est en train de changer. Oui, mais attendez, ce qui serait arrogant, Nicolas Demorand, c'est de dire que nous avons eu tout bon, sans échec, sans erreur depuis le début. Et ça n'est pas ce que nous disons.
Jean-Pierre Raffarin a parlé hier, il a estimé que la solitude du président était problématique, ce sont ses mots. On voit bien que le gouvernement et la majorité ne protègent pas suffisamment le président et qu'il est surexposé. Est-ce que vous avez l'impression, vous, en tant que président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, de ne pas protéger suffisamment le président ?
Écoutez, j'ai pas cette impression-là et ça n'est pas ce que le président nous dit. En revanche, ce que je vois, c'est que la majorité et le groupe parlementaire que je préside, précisément sur cette question du grand débat, est totalement engagé. Aujourd'hui, tous les députés sont à la manœuvre pour susciter, faciliter, inspirer les débats. Certainement pas pour les préempter, ni les capturer, parce que ça serait contraire à l'éthique de ce grand débat. Mais nous sommes totalement engagé dans ce grand débat national.
Jean-Pierre Raffarin qui par ailleurs souhaite déconnecter les mandats présidentiels et législatifs en ramenant le mandat de député à 4 ans, en laissant celui du président à 5. Comme ça, il y a un déséquilibre dans le calendrier qui permet de redonner de la respiration politique et démocratique. Y êtes-vous favorable ?
Écoutez, moi j'invite Jean-Pierre Raffarin à poster sa proposition sur le site du grand débat national, granddebat.fr. Elle rejoindra toutes les propositions qui vont naître de ce débat, notamment sur le 4e des chapitres, qui est le chapitre institutionnel.
Oui, mais comment rassurer sur le débouché possible de sa proposition, est réduit à la même enseigne.
Alors, Jean-Pierre Raffarin devra faire, comme tous les autres citoyens, attendre les conclusions du grand débat pour voir ce qui est sorti du grand débat et ce que nous en retenons.
Allez, on va donc dire à Jean-Pierre Raffarin d'aller écrire sa contribution sur granddebat.fr.
Exactement.
Sur le sujet des 80 km/h, le président s'est redit prêt à des aménagements au cas par cas. Ça veut dire quoi, des aménagements au cas par cas ? Ça veut dire qu'il y a certaines routes qui seront à 80 km et d'autres à 90 ? Ça veut dire quoi en français ?
Alors, ça veut dire d'abord que sur ce sujet, comme sur tous les autres, il n'y a pas de tabou. Dès lors qu'on rentre dans les 4 chapitres du grand débat, toutes les idées, toutes les propositions, même celles qui peuvent donner lieu à des ajustements de mesures que nous avons déjà prises, sont recevables. Ben, l'ajustement sur les 80 km/h, on verra ce qui ressort, on verra quelles sont les propositions, mais on peut parfaitement imaginer qu'il y a des routes qui sont infiniment plus dangereuses que d'autres. Donc on peut peut-être moduler la limitation de vitesse en fonction de la dangerosité de certaines voies ou de certaines routes.
Vous répétez inlassablement, il n'y a pas de tabou, ça fait 3 fois que vous le dites ce matin.
Est-ce
qu'il
n'y
a pas de tabou ?
Alors
justement, est-ce qu'il n'y a pas de tabou, par exemple, que l'une de vos députées, Agnès Thil, condamne l'ouverture de la PMA à toutes les femmes et selon elle, l'absence de genre dans le mot parent favorise l'éclosion d'écoles coraniques. Est-ce que là aussi, il n'y a pas de tabou ? Elle a le droit de le dire, il n'y a pas de problème.
Alors d'abord, ces questions de PMA et de bioéthique ne rentre pas dans le champ du grand débat national, mais j'ai bien compris que ça n'était pas le sens de votre question. Sur ces questions, nous avons été très clairs, Stanislas Guérini, le délégué général du mouvement et moi-même, en nous désolidarisant totalement des déclarations d'Agnès Thil. Simplement, Agnès Thil a été invitée, dans le cadre d'une mission parlementaire, à émettre les réserves, voire les oppositions qu'elle avait à exprimer contre le rapport. Elle l'a fait dans ses mots, elle l'a fait dans des termes et sur une position qui en aucun cas ne sont celles ni du groupe parlementaire, ni du mouvement, mais je ne suis pas là pour pratiquer la police de la pensée.
Donc elle a toujours sa place dans le groupe.
Aujourd'hui, elle a toujours sa place dans le groupe.
Le service politique de France Inter nous remonte parfois que le groupe LREM à l'Assemblée nationale a du mal à tenir son unité sur le plan idéologique. Il y a beaucoup de chapelles et de courants. Vous allez me dire que c'est bien que tous les points de vue, vous venez de le dire à Léa, tous les points de
vue
s'expriment.
C'est bien que vous connaissiez mes réponses à l'avance.
Non, mais je l'imagine. Mais est-ce qu'il a encore une unité, ce groupe, une colonne vertébrale idéologique à part le président de la République ?
Pas seulement le président. Un désir ardent de transformer ce pays. Mais il est vrai que nous exprimons, nous sommes constitués, traversés de très grandes diversités de sensibilités. Et toute ma fonction, dont je suis le garant, est de rapprocher ces positions, d'arriver à trouver constamment des compromis, des positions communes. Ça n'est pas facile, mais nous y sommes...
Ça se fissure ou pas ?
Non, ça ne se fissure nullement. Il n'y a pas plus d'expression de diversité aujourd'hui qu'il y en avait au début, et il y en aura toujours. Cela tient, vous l'avez dit, à notre absence d'histoire commune et au fait que précisément nous inventons une histoire politique totalement inédite. Nous avons accédé au pouvoir précisément parce que tous les partis traditionnels en étaient chassés. Et donc, nous devons petit à petit construire cette identité politique. Ça n'est pas facile, notamment dans les périodes compliquées comme celles que nous vivons, mais je n'ai pas l'ombre d'un doute sur le fait que nous y réussissions. Il y a une condition pour réussir, et ça, j'en suis le garant, c'est que jamais nous ne refusions le débat interne. Alors, de temps en temps, le débat interne se déplace sur la place publique, se déporte sur la place publique, ça crée du trouble, ça crée de la polémique, ça peut créer de la turbulence, il faudra apprendre à vivre avec. J'ai appris avant à vivre avec, je pense que vous aussi, les commentateurs, vous arriverez à vivre avec.
Les commentateurs ont lu ce matin le journal Libération. Est-ce que vous avez vu cette une assez percutante qui cite des noms, 26 noms, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg, Françoise Bettencourt, égale la moitié de l'humanité. C'est le rapport de l'Oxfam qui dit que 26 milliardaires ont désormais entre les mains autant d'argent que les 50% les plus pauvres de l'humanité. Oxfam qui appelle à taxer les plus riches. Est-ce qu'Oxfam se trompe en appelant à taxer les plus riches ?
Alors, la manchette est spectaculaire, les méthodes d'Oxfam sont peut-être contestables, mais peu importe parce que le message est intéressant. Il rejoint, on revient sur le grand débat national, une revendication universelle aujourd'hui qui est le résultat de 40 ans de crise et 20 ans d'évolution du capitalisme qui est la question de la justice et des inégalités. Et je peux vous dire, puisque nous avons déjà quelques tendances sur les premières réunions du grand débat national, cette question de la justice revient en force. Il faudra y apporter des réponses concrètes, mais sans céder à la démagogie et au yaka. Il faut aller au fond de ce que des causes de ces inégalités. Il y a des causes universelles, la financiarisation de l'économie, les recherches de gains actionnariales, qui ont aussi leur vertu, parce qu'ils permettent de faire venir des investisseurs, de développer l'activité, de développer la croissance. Nous n'aurons pas le droit aux idées schématiques. Mais en revanche, nous devrons très clairement apporter des réponses très claires.
Vous voyez que la cordée ne fonctionne pas.
Mais vous savez,
la relation entre les premiers et les derniers de cordée, le concept est peut-être à remiser aussi.
Sur la photo instantanée, à l'évidence, moins en France que dans d'autres pays, les inégalités se sont creusées. Sur le sommet, les fameux désignés à la une de Libération. Mais vous savez, si ça doit déborder dans un procès des riches, là on tombera dans le simplice. Si ça doit déborder sur des vraies solutions pour faire évoluer notre système fiscal et social, par exemple, comme nous avons commencé de le faire, à l'évidence, ce sera une contribution
utile. C'est ce qu'on vit en ce moment, le procès des riches, la chasse aux riches. Vous avez l'impression qu'il y a de ça ?
Écoutez, aujourd'hui, il y a une colère, une libération de la parole, pas toujours facile à admettre, qui sombre de temps en temps dans le simplisme. Je ne pense pas que les riches doivent se sentir ostracisés dans notre pays. De toute façon, ils ont des responsabilités. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux l'exercent, notamment par le financement qu'ils apportent à l'économie. Et ça, le dire, ça n'est pas céder à la démagogie, mais c'est dire la vérité.
Philippe est en ligne et nous appelle d'Angers. Soyez le bienvenu sur Inter.
Bonjour.
Philippe, on vous écoute. Bonjour.
Oh, merci de m'écouter. Bonjour. On a eu Blanquer, je suis enseignant d'ailleurs. On a eu Ferrand, on a ce monsieur aujourd'hui. Moi, je suis très impressionné d'entendre qu'on va peut-être ramener la limitation de vitesse à 90 km/h.
80.
Alors que mon avis, 90, de 80 à 90. 90. Oui, c'est bien ce que je dis, les
années.
qu'on entend, on voit que le programme de l'Assemblée nationale n'a pas changé, hein, tout ce qui va arriver à l'ordre du jour n'a pas changé. On voit que la loi de finances 2019 n'a absolument pas été infléchie. On est, à mon avis, dans une crise sociétale et pas dans un truc d'aménagement en marge. Et monsieur vient nous faire des arguties ce matin. Vous vous regardez le matin dans la glace, là, en tant que député, président d'un groupe, quand vous voyez ce qui se passe dans la rue, quand vous voyez la misère qui monte.
Est-ce que vous avez une question, Philippe ?
Des aménagements.
Philippe, est-ce que vous avez une question ? Dites-nous.
Est-ce que le grand débat, c'est pas de l'enfumage, du gain de temps et véritablement du foutage de gueule ?
Merci pour cette question que vous avez fini par formuler. Gilles Legendre vous répond.
Alors, premièrement, je n'ai pas dit que nous allions passer à 90 km/h. J'ai répondu à la question de Léa Salamé. Qu'est-ce que signifierait des ajustements? C'est encore au conditionnel, mais on voit bien que des ajustements, c'est par définition le fait que ça ne soit pas la même règle partout, en tout endroit. Deuxièmement, excusez-moi de corriger les choses. Vous dites que la loi de finances n'a pas été changée. C'est faux. Nous avons voté en une semaine, juste avant les fêtes, la distribution de 10,3 milliards de pouvoir d'achat, précisément en direction des populations les plus fragiles, celles dont les gilets jaunes se faisaient le relais des revendications et de la colère. Maintenant, sur le grand débat, vous avez absolument le droit de ne pas y croire. Simplement, je vous le dis, comme je le pense, la majorité des Français vous donnera tort, précisément parce que même quand ils sont opposés à notre politique, même quand ils la critiquent, et même quand ils sont sceptiques quant au résultat du grand débat, ils auront envie d'y participer.
Mais à quoi sert, je reformule la question de Philippe, le grand débat alors que tous les ministres disent qu'ils ne changeront pas de politique et que le cap sera le même?
Je suis désolé, je n'ai pas entendu les mêmes ministres que vous.
On ne change pas de cap, c'est moi qui l'ai inventé.
Non, on ne change pas de cap sur le fait qu'on n'arrêtera pas les réformes. Ça, c'est fondamental, et ça n'est pas de l'obstination.
Ça veut dire qu'on changera pas de rythme.
Non, on ne changera pas de rythme, et ça n'est pas de l'obstination, c'est tout simplement parce que ce sont les réformes qui apporteront les solutions réelles et durables aux problèmes soulevés par les gilets jaunes, et au-delà, qui provoquent la colère ou l'insatisfaction des Français. En revanche, nous ajusterons les réformes. Il y a des réformes que nous avons mises de côté précisément parce que nous voulons attendre la fin du grand débat national.
On est en ligne avec Thomas depuis la belle ville de Beauvais. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci. Ma question, est-ce que vous ne pensez pas que la dissolution de l'Assemblée nationale pourrait être une composante, même voire une composante oxygénante du grand débat ?
Merci Thomas. Gilles Legendre vous répond.
Écoutez, je ne le crois pas et c'est pas pour défendre ma position ou celle de mes collègues. Je pense qu'il y aura des réponses institutionnelles à apporter dans la foulée du grand débat. Il y aura peut-être des initiatives politiques à prendre. C'est au président de la République d'en décider à l'issue du grand débat. Et il y aura surtout des réformes à mener. Nous évoquions tout à l'heure le fait que des réformes avaient été laissées de côté en attendant la fin du grand débat. La réforme institutionnelle, qui inclut la réforme constitutionnelle, mais aussi la réduction du nombre de parlementaires, l'interdiction du cumul dans le temps, l'introduction de la proportionnelle, et peut-être d'autres choses que va faire apparaître le grand débat, le vote blanc, le vote obligatoire, tout ça est en question, tout ça apportera probablement une respiration. Et puis il y a quelque chose, moi, à laquelle je suis très attaché, et mes collègues députés aussi, c'est la manière dont, après le grand débat, nous saurons instaurer cette fameuse démocratie participative dont le grand débat est en quelque sorte le pilote et qui correspond, je pense, à une aspiration très forte de la plupart de nos concitoyens.
Sur Twitter, je crois, Benjamin vous demande la chose suivante. En effet, Gilles Legendre, il cite vos propos, toutes les violences sont inacceptables. On revient aux manifestations des Gilets jaunes. On attend toujours la dénonciation des violences policières de ces dernières semaines qui sont une honte dénoncée par le Défenseur des droits, Amnesty France, etc. Gilles Legendre, sur cet aspect-là des manifestations.
Là encore, elles ont été dénoncées quand il y avait des excès, mais ne sombrons pas dans la caricature. Il faut, à l'évidence, face au degré de violence, face à la violence déployée par les casseurs, que les policiers puissent se défendre. Moi, je salue le travail des policiers, parce que dans des conditions inouïes et d'une certaine manière inédites, avec un degré de violence, une répétition, une intensité, nous avons réussi au maximum à limiter les victimes humaines. Alors, ça s'est traduit par des dégâts matériels, mais
oui,
ils sont moins graves.
Des blessures très graves.
Oui, il y a eu des blessures très graves. Oui, mais attendez.
On peut dire les deux, non? On peut soutenir le travail des policiers, reconnaître qu'il y a eu aussi des blessures très graves.
Mais quand vous voulez empêcher des personnes qui sont prêtes à tout pour détruire, éventuellement blessées et le cas échéant tuées, il y a eu 10 morts tout de même. 10 morts depuis le début de ce mouvement.
En marge des manifestations.
Ouais. Il y aurait pu en avoir beaucoup plus si la police et les forces de l'ordre n'avaient pas mené une politique aussi bien ciblée et aussi bien conduite.
Mais c'est pas au nom du fait que ça aurait pu être pire qu'on ne peut pas déplorer que ce soit ce que c'est.
Mais on le déplore. Mais quand on crée des situations de tension et de violence comme ça, on ne s'en sort pas uniquement avec des bonnes paroles.
D'un mot, Gilles Legendre, est-ce que vous allez participer dimanche prochain à 14h, Place de la République, à la marche républicaine et des libertés, initiée par les foulards rouges, marche dite pro-Macron?
Si j'y participe, je ne le dirai pas.
Ah bon?
Pour une raison très simple.
C'est secret.
Non, c'est pour une raison très simple, c'est que c'est une manifestation de citoyennes et de citoyens qui n'est pas organisée par le mouvement politique auquel j'appartiens, qui n'est pas organisée par le groupe parlementaire auquel j'appartiens, qui évidemment est regardée d'un œil extrêmement favorable, compte tenu des motivations qui sont les siennes, et je m'empresse de le dire, qui n'ont rien à voir avec le soutien ni du président de la République, ni du gouvernement, ni de la majorité, mais la défense de la démocratie dans notre pays, des valeurs républicaines, et accessoirement de l'ordre.
Et alors pourquoi vous dites pas j'y serai comme citoyen?
Eh bien parce que, en tant que citoyen, ça me regarde. Et je n'y vais pas en tant que responsable politique si j'y vais.
D'accord, on vous guettera.
On est en ligne.
Vous aurez du mal à me trouver, à mon avis.
On est en ligne, donc, parce que vous n'irez pas. On est en ligne.
C'est pas ce que je dis.
Ah, d'accord, vous serez caché. On est en ligne avec Dominique. Bonjour, bienvenue sur Inter.
Bonjour et bravo pour vos émissions. Monsieur Legendre, ce n'est pas tant une question que je vais vous soumettre, je vais me permettre de vous faire une remarque. C'est que, et c'est vrai surtout pour la première partie de votre intervention ce matin, je trouve, vous êtes dans un total déni de réalité, vous pratiquez une langue de bois, vous n'avez pas le monopole, mais enfin vous pratiquez une langue de bois qui est effarante. Et je voulais juste vous dire, c'est mon sentiment, que vous êtes en train de faire le lit de votre malheur en parlant comme ça aux gens. Je crois que c'est exactement ce dont les gens ne veulent plus aujourd'hui.
Pourquoi vous dites ça?
Je peux illustrer, c'est anecdotique, mais c'est la réponse sur Monsieur Raffarin ou la réponse sur cette députée qui a fait cette déclaration sur la PMA. On a eu le droit à des non-réponses. On sent très bien, parce que ça se sent ce genre de choses, qu'on a en face de soi quelqu'un qui n'est pas sincère. Et c'est exactement ce dont les gens ne veulent plus et n'en peuvent plus. Voilà.
Merci Dominique. La parole à Gilles Legendre.
Je ne sais pas, monsieur, à comment on répond à un procès d'intention. C'est un procès d'intention que vous me faites. Évaluez ma sincérité, c'est votre droit. Moi, je le dis, je sais que je suis sincère. Je n'ai pas pratiqué la langue de bois. J'ai dit que je condamnais les propos de ma collègue Agnès Thil et que je ne suis pas le seul dans ce cas.
Est-ce que, comme homme politique, vous pouvez vous dire que ceux qui vous écoutent ont une partie du message aussi entre les oreilles?
Absolument.
Si ce que Dominique entend, c'est une absence de sincérité, vous devez peut-être réfléchir, non?
Il m'arrive de réfléchir. C'est
très rare,
Nicolas
Demorand. Sur ce point précis.
Mais attendez, nous savons parfaitement que une des grandes difficultés du moment, c'est la qualité de notre relation avec les Français. Mmh. Nous savons que c'est une tâche qui est constante pour tout homme et femme politique de tout temps, mais que dans l'époque que nous vivons, marquée par un immense scepticisme, marquée par une immense colère, marquée, nous en avions l'exemple tout à l'heure dans la chronique de Pierre Aski, par le développement des fake news, notamment sur les réseaux sociaux.
Mais du coup, parler différemment, autrement.
Alors,
c'est aussi une crise du langage politique.
Je suis prêt à entendre tous les conseils. Mmh. Il y a une chose dont je suis absolument certain, c'est que en aucun cas, je ne dis rien qui puisse être contraire ni à mes valeurs, ni à mes convictions. Mmh. Ensuite, est-ce que dans l'expression, ça peut créer du scepticisme? Vous savez, il y a une expression aussi qui a quand même quelques années d'âge et qui a son mérite. Il n'y a pas de plus grand sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, la communication, elle se joue à deux. Mmh.
Merci Gilles Legendre.
Je vous remercie.
Président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale.